Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Dans Espérance aujourd'hui, nous voulons réfléchir sur les problèmes du monde en y apportant un regard biblique.
Les veuves et les orphelins. Voici le thème qu'Anne et ses invités vont à présent aborder.
Nous allons commencer aujourd'hui par apporter un regard biblique sur cette triste réalité. Pour cela, je fais appel à Jean-Marc. Bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Jean-Marc, nous avons appris que la pauvreté menace les veuves et les orphelins. Oh, cette situation dramatique se rencontre de plus en plus souvent. La Bible parle-t-elle de ce problème?
Oui. Nous avons compris la dernière fois que la loi que Dieu a révélée à Moïse cherche à apporter une certaine protection aux veuves et aux orphelins. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le Nouveau Testament pour réfléchir sur ce qu'il nous apprend quant à notre sujet. J'aimerais, dans un premier temps, attirer notre attention sur un passage de l'Écriture trouvé dans Jacques, au chapitre 1, verset 27. Selon Jacques, la religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par le monde.
Donc selon ce verset, le chrétien a pour responsabilité de s'occuper des veuves et des orphelins.
Tout à fait. Plaçons-nous toutefois dans le contexte de l'épître de Jacques. Apparemment, les églises auxquelles Jacques s'adresse confessaient leur foi en Jésus-Christ sans pour autant exprimer le désir de venir en aide aux nécessiteux. Alors que certaines personnes au sein même de ces églises vivaient dans le besoin. L'un des thèmes de cet épître est qu'une foi sans œuvre n'est pas une foi authentique. Écoutez encore ce que déclare Jacques. « Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes ?» La leçon à retenir de ces versets est simple. Ceux qui prétendent croire en Jésus-Christ doivent le prouver, entre autres, en répondant aux besoins des personnes qui les entourent. Nous avons déjà appris que l'un des besoins les plus urgents est la situation précaire de nombreuses veuves et orphelins. Les églises doivent réfléchir aux moyens d'y faire face. Mais il ne suffit pas d'en parler, il faut aussi agir de façon concrète et constructive.
Nous ne devons donc pas penser que le sort des veuves et des orphelins dépend uniquement de leur famille ou de l'État. En fait, le sort revient de la responsabilité de tous. Et nous devons travailler ensemble, mettre nos ressources en commun, afin de faire face à leurs besoins immédiats.
C'est exact. Pour répondre à ces besoins, il faut beaucoup de sagesse et une grande volonté. Il faut aussi faire appel à la générosité et à l'intégrité de ceux qui gèrent de tels projets.
Admettons donc que les églises devraient s'impliquer davantage pour secourir les veuves et les orphelins. Alors j'ai deux questions à vous poser. D'abord, les églises devraient-elles s'occuper exclusivement des veuves et orphelins présents en leur sein? C'est-à-dire, devraient-elles prendre uniquement soin des veuves et des orphelins chrétiens? Ou bien devraient-elles porter secours à tous, sans tenir compte de leur foi?
Voici une question délicate. Dans son épître aux églises en Galatie, l'apôtre Paul déclare « Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. »
Ce verset me donne l'impression qu'il faut d'abord venir en aide aux chrétiens démunis, membres de notre Église, et que dans un deuxième temps, si cela nous est possible, nous pouvons nous occuper des nécessiteux se trouvant en dehors de nos Églises.
C'est effectivement ainsi qu'il faut comprendre ce verset.
Mais ne court-on pas le risque de faire preuve de favoritisme en pratiquant une pareille politique?
Le Nouveau Testament compare l'Église à une famille. Les chrétiens en son sein y sont comme des frères et des sœurs. Et il est normal de s'occuper d'abord de sa propre famille, dont ses frères et sœurs. Il faut admettre que souvent les églises disposent de peu de ressources à consacrer à l'assistance humanitaire et qu'elles doivent alors choisir vers qui elles peuvent donner leur priorité. Car il est impossible de porter le monde entier sur ses épaules. Alors bien sûr, Il est souhaitable, lorsque les ressources de l'Église le permettent, de secourir autant de personnes possibles, membres ou non de cette Église.
Et c'est justement sur cette question de ressources limitées que je voudrais soulever une question. Les Églises ne risquent-elles pas d'être submergées par l'importance des besoins? Le Nouveau Testament a-t-il des conseils à apporter quant à la manière de gérer de telles situations?
Nous pouvons trouver quelques éléments de réponse à cette question dans la première épître de Paul adressée à Timothée. Timothée dirigeait, avec d'autres hommes consacrés à l'Église, l'Église d'Éphèse. À travers sa lettre, Paul nous apprend que cette Église avait mis en place un programme d'assistance pour les veuves. C'était donc une Église qui pratiquait l'amour envers les nécessiteux. Toutefois, elle devait être dépassée par les besoins des uns et des autres, car l'apôtre Paul dut conseiller à Timothée d'établir parmi les veuves des critères pour déterminer vers lesquels d'entre elles venir en aide en priorité. Il conseillait à l'Église d'aider seulement celles se trouvant dans la situation la plus dramatique. Autrement dit, cette Église devait consacrer ses ressources limitées seulement pour secourir les plus pauvres.
Vous avez parlé d'établir des critères afin de pouvoir déterminer quelles sont les personnes les plus démunies. Pouvez-vous en citer quelques-uns?
Certainement. Concernant les veuves, celles qui étaient encore jeunes étaient encouragées à trouver du travail et à se remarier afin de refaire leur vie. Celles qui avaient des proches étaient encouragées à chercher auprès d'eux de l'aide. Les familles étaient donc exhortées à prendre soin des siens. Ainsi, il ne restait plus que les veuves âgées, sans aucune possibilité de secours. Elles furent considérées comme vivant dans le plus grand besoin. Cependant, l'apôtre Paul ajouta à leur sujet qu'elles devaient aussi rendre un bon témoignage afin de pouvoir bénéficier de l'aide de l'Église.
Que pouvons-nous apprendre de ces conseils concernant la situation qui nous intéresse, celle des veuves et des orphelins en Afrique? Est-ce qu'il faut prendre ces critères à la lettre et les appliquer littéralement?
Il est malheureusement souvent nécessaire de décider qui nous pouvons vraiment aider. Nous ne devons pas forcément établir les mêmes critères que ceux choisis par l'apôtre Paul. La situation que nous vivons ne ressemble pas forcément à celle qui existait à l'église d'Éphèse. Le plus important est de retenir le principe que nous devons aider en priorité les plus démunis, ceux qui vraiment ne bénéficient d'aucune possibilité de secours.
Je remercie Jean-Marc pour sa participation aujourd'hui. Nous venons donc de parler de la démarche que la Bible nous exhorte à suivre quant aux veuves et aux orphelins. Il s'agit là de la mise en pratique des paroles de Jésus qui nous enseigne « Aimez votre prochain ». À présent, André est de retour parmi nous afin de nous parler davantage des besoins actuels et de ce qui se fait sur le terrain. Bonjour André.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
André, nous avons déjà parlé des conditions de vie dramatiques auxquelles certaines veuves et certains orphelins sont confrontés. Nous avons compris que Dieu n'est pas indifférent à leur situation et que la responsabilité de répondre à leurs besoins incombe à tous. Mais comment, face à l'importance de ce problème, pouvons-nous espérer apporter des solutions efficaces?
Déjà, il faut que les gouvernements, les églises, comme la communauté internationale, reconnaissent l'ampleur de ce problème. Il faut que toutes ces organisations puissent collaborer et s'accorder sur la démarche à suivre, tout en y consacrant les ressources nécessaires.
Et selon vous, quelles sont les priorités?
Il y en a plusieurs. D'abord, il serait bon de chercher à réduire le nombre croissant des orphelins. Ceci ne pourra se faire qu'en s'attaquant à la racine du problème. Ainsi, il faudrait une meilleure politique de prévention contre des maladies telles que le paludisme, mais surtout le sida. Il n'est pas facile de changer les mœurs dans le domaine sexuel, mais sans y parvenir, il serait extrêmement difficile de freiner la progression du sida.
Toute politique de prévention doit ainsi être encouragée. Mais pour beaucoup, c'est déjà trop tard. Que donc faire pour les veuves et les orphelins?
Leurs besoins sont nombreux. Ils sont d'ordre matériel, car la pauvreté les guette. Ils sont aussi d'ordre affectif et moraux. Il est traumatisant de perdre un proche, d'autant plus quand la cause est liée à la violence ou au sida. Ces veuves et ces orphelins ont besoin d'un avenir sécurisant. mais souvent ces enfants sans père ou mère doivent arrêter leur éducation, soit parce que subitement ils deviennent soutien de famille et sont alors contraints de travailler, soit par faute de moyens, parce qu'ils ne peuvent plus assumer leurs frais scolaires.
Comment donc répondre à ces besoins?
Selon l'association Avert, il vaudrait mieux éviter la construction de nouveaux orphelinats, car selon eux, il est moins cher et plus efficace de placer des orphelins dans des familles d'accueil. Il faudrait toutefois trouver davantage de familles acceptant d'assumer ce rôle et les ressources leur permettant de bien s'occuper des enfants qui leur sont confiés. C'est au sein d'une famille qu'un enfant bénéficiera de toutes les chances de retrouver une vie normale. D'autres associations suggèrent que là où les enfants aient déjà acquis une certaine maturité, il serait mieux de leur donner un soutien là où ils sont, dans la communauté. Ils proposent d'établir des réseaux de bénévoles qui pourraient chacun contribuer à leur façon et ainsi entourer ces foyers.
Est-ce là que les églises peuvent jouer un rôle?
Oui, les églises peuvent veiller au bon établissement des projets locaux. Elles peuvent apporter un soutien moral et spirituel. Elles peuvent aider dans la formation des familles d'accueil et des bénévoles et donner des conseils et de l'encouragement. Elles peuvent aussi coordonner le travail et le partage des fonds selon les besoins.
Ce sont quand même de lourdes responsabilités.
C'est vrai, et il faut s'assurer que tout se déroule avec intégrité. Les églises doivent aussi veiller sur les familles d'accueil et bénévoles afin d'assurer qu'elles ne maltraitent ni exploitent les orphelins qui leur sont confiés. Un danger malheureusement trop réel.
Merci André pour ces quelques réflexions sur un sujet à la fois complexe et urgent. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter pour terminer?
Oui, je pense à un problème qui touche surtout les orphelins de parents morts du sida. Le sida demeure un sujet tabou et il suscite de nombreux malentendus et des craintes. Trop souvent, les orphelins de parents morts du sida sont méprisés ou rejetés. Ces attitudes sont inacceptables. Il ne faut pas ajouter à la détresse de tels enfants. Les chrétiens doivent travailler pour surmonter ces préjugés. Ils doivent suivre l'exemple de Jésus, qui allait vers les personnes rejetées, les exclues, pour leur apporter un message d'amour, leur faire connaître la compassion de Dieu, leur envoyer un secours dans la détresse et leur offrir un meilleur avenir. Voilà le rôle des églises.
Merci André. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui, sur le terrain, font déjà preuve d'amour en portant secours aux veuves et aux orphelins. Que l'Éternel renouvelle leurs forces et pourvoie à leurs besoins.
La prochaine fois, nous nous pencherons sur un récit biblique montrant comment deux veuves trouvèrent un secours auprès de l'Éternel. Et nous pourrons ainsi poursuivre nos réflexions sur ce sujet d'actualité.
En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.